La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, 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 tête. Carré. Dans le rythme de nos vies effrénées, dans le tourbillon de nos sociétés hyper connectées, nous avons de plus en plus de mal à nous poser, à supporter l'inactivité, voire à accepter de nous ennuyer. Et pourtant, les scientifiques en sont convaincus, l'ennui peut avoir de grandes vertus qu'il serait intéressant d'ailleurs de pouvoir remettre un peu au goût du jour. Dans son dernier numéro, le magazine Cerveau et Psycho dissèque cette émotion particulière pour nous en montrer les aspects bénéfiques. Que se passe-t-il dans le cerveau de quelqu'un qui s'ennuie? Comment différencier l'ennui bénéfique de l'ennui pathologique? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec mes invités, vos questions et vos témoignages sur le site de l'émission. Caroline Tour, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, cette question, pourquoi les enfants ne semblent donc jamais être fatigués? On
oui.
aimerait bien le savoir.
Oui, c'est vrai Mathieu. Pourquoi? Ils courent, ils nagent, ils sautent à la corde, ils tapent dans la balle. Et pour finir la journée, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils rentrent en sautillant joyeusement jusqu'à la maison.
Oui, ils nous épuisent.
Ils nous épuisent. Une étude originale menée par une équipe de chercheurs franco-australiens nous explique enfin pourquoi, comment font les jeunes enfants pour garder une forme olympique. On en discute avec Sébastien Ratel de l'Université de Clermont-Ferrand.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré aujourd'hui, préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Ennuyons-nous un peu, nous pourrions nous en porter beaucoup mieux. Roger Teboul et Sébastien Boller sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Roger Teboul, vous êtes pédopsychiatre. Est-ce que vous conseillez aux parents que vous recevez dans votre cabinet de provoquer un peu d'ennui chez leurs enfants? Est-ce que vous prescrivez de l'ennui?
Oui, on pourrait prescrire de l'ennui, ça peut m'arriver. Et en tous les cas, dans l'unité d'hospitalisation pour adolescents dont je suis responsable, il y a, oui, des prescriptions d'ennui. Oui.
Et ça se traduit comment alors qu'on fait?
Eh bien, on demande un peu aux adolescents de se laisser aller à penser. Mmh. Et on leur dit que c'est un vrai travail.
On va expliquer pourquoi c'est bénéfique justement. Sébastien Bollard, ça se voit dans le cerveau l'ennui ou pas concrètement?
Oui, notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon quand il est occupé concrètement à une activité et quand il ne fait rien. En fait, c'est ça qu'on sait aujourd'hui. On l'a découvert il y a une vingtaine d'années maintenant. On a découvert l'existence d'un réseau de notre cerveau qui s'active spécialement quand nous ne faisons rien.
Ah oui, voilà. Il s'active quand on ne fait rien. Ouais. Ça peut paraître paradoxal, mais ça fonctionne pourtant comme ça. Ouais. Bon, on va l'expliquer ensemble tout à l'heure.
Ouais.
Et puis on va se retrouver avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent et qui auront sans doute aussi des témoignages à nous livrer. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Les enfants et leur formidable capacité de récupération, aujourd'hui, à la une de la science.
Hey, on se calme, on se tait, s'il vous plaît. Putain, mais faut vous calmer, hein. Faut vous calmer, parce que ça va pas le faire.
Mais ils dorment quand même, parfois, non?
Jamais, malheureusement.
Parce qu'il y a des techniques, tu savais, ça?
Les somnifères, j'y ai pensé aussi, mais...
Pas du tout. Faut les sortir, faut qu'ils se dépensent, faut emmène-les au parc. Le parc.
Voilà, extrait du film Daddy Cool et les enfants avec leur métabolisme comparable à celui des athlètes de haut niveau. C'est ce qui ressort en tout cas en substance d'une étude réalisée par une équipe franco-australienne. Et on en parle à la une de la science avec notre invitée Caroline Tourbe.
Oui, aujourd'hui nous sommes en duplex depuis les studios de France Bleu Pays d'Auvergne avec Sébastien Ratel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Clermont-Auvergne et vous avez dirigé cette étude qui a été menée sur des enfants de 8 à 12 ans. Mais comment vous est venue l'idée à vous de comparer l'endurance des plus jeunes avec celle d'athlètes adultes?
Alors au sein de l'équipe, on travaille depuis quelques années sur la récupération de l'enfant et sur sa fatigabilité au cours de l'exercice, et notamment au cours des exercices de haute intensité. Et on a montré à plusieurs reprises, même s'il n'y a pas beaucoup d'études sur ce sujet, on a montré que les enfants se fatiguent beaucoup moins vite et plus faiblement que les adultes non entraînés. Et on s'est demandé qu'est-ce que à l'enfant dans le ventre, en fait, qu'est-ce qu'il est capable de faire si on le compare à des athlètes adultes très bien entraînés en endurance, qu'est-ce qu'ils sont capables de réaliser au cours des efforts intensifs, comment ils se fatiguent et comment ils récupèrent par rapport à eux.
Et donc vous avez mis en place une expérience, vous pouvez nous en donner un petit peu le déroulé?
Vous les avez comparés avec de vrais athlètes ou pas?
Complètement, on a comparé ces jeunes de 8-12 ans, des garçons qui pratiquent moins de 4 heures d'activité physique par semaine. On les a comparés à des athlètes très bien entraînés en endurance, puisqu'ils pratiquaient plus de 6 séances d'entraînement par semaine avec un gros volume horaire hebdomadaire, des triathlètes, des cyclistes, des coureurs à pied de longue distance. Et puis on les a comparés aussi à des adultes non entraînés. Et donc on leur a proposé de réaliser un sprint assez intensif de 30 secondes. On a évalué la récupération, donc on a mesuré de nombreux paramètres physiologiques allant de la puissance à la fréquence cardiaque, à l'acide lactique, au lactate que l'on retrouve dans le sang, et puis la consommation d'oxygène.
Et donc quand vous avez eu ces résultats, vous avez été assez surpris hein, par un point, notamment les capacités de récupération, c'est ça, des enfants ?
Exactement. Donc on a montré que les enfants prépubères, ils sont métaboliquement comparables à des athlètes entraînés en endurance. Donc ils se fatiguent aussi vite que ces athlètes-là. Mais ce qui nous a surpris notamment, c'est leur faculté de récupération, parce que on s'attendait à ce que les athlètes endurants récupéreraient beaucoup plus vite. Et c'est pas le cas. Les enfants récupèrent même plus vite que les athlètes endurants. Et lorsqu'on regarde la baisse de la fréquence cardiaque au cours de la récupération, cette baisse, elle est très très rapide chez les enfants par rapport aux athlètes. Et au-delà de ça, les enfants sont capables d'éliminer certains déchets métaboliques tels que le lactate. Ils sont capables de l'éliminer beaucoup plus vite. Et donc le fait d'éliminer plus rapidement ce lactate, eh bien, ça permet de retarder l'apparition de la fatigue et de récupérer beaucoup plus vite.
Et comment on explique alors cette capacité de récupération très rapide chez les enfants? C'est les 8-12 ans hein, qui ont été étudiés dans le travail, hein, c'est ça?
Exactement, ce sont des enfants prépubères, donc des garçons avant leur pic de croissance. Donc les enfants étant plus petits, finalement, ils utilisent majoritairement leur filière aérobie, leur métabolisme aérobie, celui que le muscle utilise à partir de l'oxygène, en présence de l'oxygène. Et donc l'enfant utilise majoritairement cette filière énergétique au détriment des filières anaérobies, celles qui fonctionnent sans oxygène et qui produisent des déchets métaboliques à l'origine de la fatigue. Donc l'enfant, quelque part, il accumule moins de déchets métaboliques qui perturbent la contraction musculaire.
Il a d'ailleurs une structure du muscle qui est différente aussi. Hein. C'est différent les muscles d'un enfant et le muscle d'un adulte.
Exactement. Donc si dans un muscle, vous avez différents types de fibres musculaires, vous avez des fibres de type lente, à contraction lente, qui elles produisent peu de force, mais qui sont très résistantes à la fatigue. Et vous avez des fibres rapides qui sont plus puissantes, mais qui se fatiguent très vite. Et c'est vrai que les enfants ont une structure musculaire qui a une proportion élevée en fibres lentes, très oxydatives, très aérobies et très résistantes à la fatigue. C'est la particularité de l'enfant.
Et vous l'avez évoqué, la puberté c'est un moment clé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un changement physiologique, un changement de l'état même musculaire de l'enfant.
Exactement, donc au moment de la puberté, vous avez une baisse, enfin une transformation de ces fibres lentes en fibres rapides, et vous avez une capacité aérobie du muscle qui diminue au moment de la puberté. Et donc c'est vrai que lorsque l'enfant devient adolescent, donc chez le garçon à partir de 14-15 ans, ou chez la fille à partir de 11-12 ans, vous avez une transformation physiologique qui fait que l'adolescent va plus vite se fatiguer et moins bien récupérer.
Donc le côté un peu lymphatique de l'adolescent, c'est naturellement un changement musculaire aussi. Est-ce que vous avez des conseils ou est-ce qu'il vous semble que c'est important de prendre en compte ce changement physiologique musculaire pour conseiller une activité physique ?
Ben, au moment de l'adolescence, il est essentiel de préserver cette capacité aérobie du muscle, sa capacité à résister à la fatigue. Donc on a tout intérêt en tant que professeur d'éducation physique ou entraîneur, éducateur sportif, de proposer des programmes d'endurance pour maintenir la capacité aérobie du muscle et sa capacité à résister à la fatigue. Et avant cette puberté, il est nécessaire chez l'enfant, non pas de développer l'endurance métabolique, aérobie, parce qu'il est déjà très endurant, il est comparable à l'athlète de haut niveau, vaut mieux se consacrer à développer des qualités physiques telles que la coordination, l'équilibre, l'agilité, et développer plutôt la motricité chez le jeune enfant.
Roger Teboul, vous qui êtes pédopsychiatre, très intéressant quand même hein, cette étude pour comprendre
oui.
Comment fonctionnent les plus petits.
Passionnant. Et puis, moi qui m'occupe aussi d'adolescents et de cette période particulière.
Mais bien sûr.
La puberté, je trouve que c'est aussi intéressant de se rendre compte que tout tout finalement se coordonne, ce qu'on peut penser du travail psychique et ce qui se passe aussi physiologiquement et biologiquement. Donc oui, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des considérations cliniques qui ont des substrats somatiques qui sont pertinents.
Une dernière petite question, Sébastien Ratel. Est-ce que vous avez donné les résultats aux athlètes qui étaient enrôlés dans votre étude? Vous leur avez dit que les petits-enfants qui étaient avec eux, vous les avez battus
battus
à plat de couture?
Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de faire un retour sur les athlètes, mais quand ils vont apprendre la nouvelle, je ne sais pas comment ils vont réagir.
Ils vont vouloir retomber en enfance, certainement, pour aller plus vite.
Mais probablement.
Ce serait intéressant de comprendre exactement les mécanismes, peut-être pour ralentir aussi des processus de fatigue ou de vieillissement, non, Sébastien Ratel?
Oui, je pense que de toute manière, tout au long de la vie, il est essentiel de préserver cette capacité d'endurance, cette capacité aérobie, puisque c'est un facteur de santé. On sait très bien que l'endurance métabolique, l'endurance du muscle, est associée aussi à la prévalence des pathologies métaboliques que l'on connaît tous, le diabète de type 1, de type 2, l'insulinorésistance, les pathologies cardiovasculaires. Donc il faut tout au long de la vie entretenir cette capacité musculaire à résister à la fatigue, à bien récupérer.
Roger Teboul, une dernière réaction?
À la vie, c'est une course de fond, je suis tout à fait d'accord.
Ouais. C'est la conclusion que vous lui apportez à cette étude.
Je suis tout à fait d'accord.
Absolument.
Il faut penser long terme.
Ouais. Sébastien Ratel, vous avez travaillé avec des Australiens, ils se sont posés les mêmes questions que vous sur ce sujet?
En fait, il y a deux ans, j'ai eu l'occasion de rester 6 mois en Australie, et donc on a commencé à développer cette thématique et à penser finalement à comparer les enfants prépubères à des athlètes de haut niveau. Et donc du coup, cette étude réalisée ici en France à Clermont-Ferrand, c'est dans la continuité ce que j'ai entrepris lors de mon séjour en Australie avec l'équipe australienne.
Merci beaucoup. En tout cas, très intéressant cette étude, Caroline Tourbe. On se retrouve demain avec une nouvelle une. Et merci à vous, Sébastien Ratel, aux équipes de France Bleu Pays d'Auvergne. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité. Non, les pôles magnétiques terrestres ne vont pas s'inverser. Alors évidemment, dans l'histoire géologique de la Terre, il y a bien eu de telles inversions, mais les scientifiques le savent grâce à l'étude des roches et des sédiments. Et là, contrairement à une théorie en vogue actuellement, basée sur une anomalie du champ magnétique de la Terre dans l'Atlantique Sud, nous ne sommes pas en train de vivre une période de transition vers une inversion des pôles. Dans une nouvelle étude, des chercheurs californiens se sont penchés sur des anomalies passées comparables à celles observées actuellement dans l'Atlantique Sud. Et après analyse des données paléomagnétiques, ils sont catégoriques, ces anomalies ne sont pas des signes précurseurs d'une inversion imminente. Les moustiques mordent quand ils ont soif. Des biologistes de l'université de Cincinnati ont découvert que les moustiques femelles piquaient non seulement pour produire leurs œufs, mais aussi pour étancher leur soif. Pour les besoins de l'étude, les insectes ont été maintenus en condition de sécheresse. Résultat, ils sont devenus particulièrement agressifs avec les humains. Ce comportement n'avait jamais été mesuré auparavant. On pensait même que les périodes de grande sécheresse étaient plutôt liées à une diminution des piqûres de moustiques et de la transmission des maladies comme le paludisme ou la dengue. Et puis des paléontologues et des préhistoriens en colère dans la presse cette semaine. Une tribune publiée dans Le Monde hier alerte sur les risques d'épandage de polluants sur des sites archéologiques du département du Lot. C'est le développement de méthaniseurs industriels qui inquiète ces scientifiques. Ces installations vont produire en effet des lisiers qui seront épandus sur des milliers d'hectares au cœur d'une zone calcaire. Or, selon les chercheurs, les polluants contenus dans ces lisiers pourraient détériorer les sites préhistoriques et archéologiques qui abondent près de la surface dans cette région. Les signataires de cette tribune demande également que des études d'impact soient réalisées autour des grottes ornées pour s'assurer que le périmètre de protection soit suffisant. Allez, on parle de l'ennui et nous ferons l'éloge justement de l'ennui dans un instant. 1, 2, 3, 4.
I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know, but it's beautiful. You can't take this away from me, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity.
or the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline that everything will be alright. She told me that the beat is mine. It will rock us through the night. And where I go, can't explain, I'll never know. But it's beautiful. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. Hey, you can't take this away from me. The way I hear the melody, the waves bring clarity running through me.
Come on, y'all.
You can't take this away from me.
Avec De La Soul, It Runs Through Me.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Une bonne dose d'ennui cet après-midi dans l'émission, mais pour en explorer les vertus, car l'ennui ne serait pas qu'un moment mortel qui nous empêcherait de mener une quelconque activité, il y aurait du bon, à savoir ne rien faire. Roger Teboul, vous êtes pédopsychiatre et président de l'API, c'est l'association de psychiatres de secteur infanto-juvénile. Et puis Sébastien Boller est avec nous, rédacteur en chef du magazine Cerveau Psycho, qui publie un article sur l'ennui dans son dernier numéro avec cette question « Je m'ennuie, est-ce grave ?» Docteur, on va poser la question à Roger Teboul dans un instant. Et vous nous rejoignez bien sûr avec vos messages, toutes vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Sébastien Boller, l'ennui peut s'étudier sous l'angle de la psychologie ou des neurosciences d'ailleurs. Hein. C'est oui. Assez complémentaire. Ces deux disciplines ont des choses à nous dire sur le sujet.
Tout à fait. Bah, évidemment, sous l'angle de la psychologie, puisque la première chose à savoir sur l'ennui, c'est comment il est ressenti. C'est quand même un phénomène de nature émotionnelle, c'est décrit comme une émotion pénible, avec la sensation d'un temps qui s'étire, d'une passivité, d'une difficulté à éprouver des choses, à définir ses objectifs. Donc il y a une dimension psychologique évidente. Et puis, depuis qu'on arrive à regarder en détail l'activité du cerveau dans différentes activités cognitives, on peut aussi définir éventuellement des réseaux neuronaux qui s'active quand on s'ennuie, et peut-être essayer de comprendre un peu mieux justement quels sont les ressorts neurobiologiques de l'ennui. Oui.
Et donc on explorera ça aussi avec vous dans un instant, parce que ça peut paraître un peu paradoxal de voir une activité cérébrale dans un moment où il semble que justement il ne se passe rien.
Mais s'il n'y en avait pas, ça serait la mort cérébrale. Donc le cerveau est toujours actif, et la question c'est comment, qu'est-ce que c'est, voilà.
Alors Roger Teboul, l'ennui ça se définit, ça se... chez les enfants d'abord peut-être
Ça se vit. Avant tout, alors on peut effectivement, comme vous l'avez fait, essayer d'en donner une définition, alors qui peut être clinique, qui peut être philosophique, qui peut être poétique, qui a plein d'entrées, je trouve. Mais c'est avant tout, oui, un sentiment, un vécu.
Et dans le Robert, la définition, c'est mélancolie vague, impression de vide, tristesse profonde, lassitude morale quand on ne prend d'intérêt, de plaisir à rien. Voilà.
Ouais. Et c'est magnifiquement représenté dans le film de Godard, Pierrot le fou, par Anna Karina qui déambule sur la plage en disant « qu'est-ce que je peux faire ?»
On va l'entendre tout à l'heure, on va l'entendre, on a fait un petit montage justement, alors, voilà. Fanny Boyau s'en est occupée, on va l'entendre tout à l'heure.
Et c'est voilà, c'est le rien, le vide, ça a tout l'apparence de ça, et c'est en même temps un moment où on se retrouve, et c'est ça qui, moi, m'intéresse comme oui. pédopsychiatre, on se retrouve avec soi-même. Et c'est pas toujours facile de se retrouver avec soi-même. On peut avoir des tas de sentiments contradictoires. Winnicott appelait ça la capacité d'être à être seul. C'est pas évident. Et on peut se sentir abandonné, on peut se sentir... triste, on peut se sentir vide, et donc voilà, on ressent du manque, il se passe rien, mais de tout ça peut naître plein d'autres choses, et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a, je pense, ce que je soutiens, un processus psychique de l'ennui qui est tout à fait utile, important et fondamental à reconnaître, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui.
Qui repousse ça d'ailleurs, Sébastien Boller, en permanence, parce qu'on l'expliquait tout à l'heure déjà un petit peu, dans nos sociétés hyper connectées, l'ennui se fuit, et on est toujours face à quelque chose qui nous paraît très péjoratif au fond, non ?
Notre société a banni l'ennui. Alors on attribue ça à l'accélération des rythmes de vie, et c'est vrai. Aujourd'hui, les valeurs de notre société, c'est la vitesse, c'est la performance, c'est le fait d'être demandé, d'être sollicité. Si on a des temps morts, c'est quelque part qu'on est moins efficace qu'on pourrait l'être. Et ça, moi, je pense que c'était pas en accord avec ce qui pourrait être défini comme nos besoins naturels, on va dire, une sorte d'équilibre entre guillemets naturel. Si on se penche dans les époques plus anciennes de l'humanité, aussi bien aux époques historiques que préhistoriques, par l'étude des chasseurs-cueilleurs, on s'aperçoit que probablement nos ancêtres avaient de longues périodes d'inactivité, en tout cas au paléolithique. Après, ça a été remplacé par le travail acharné au néolithique, mais saisonnier, donc il y a aussi des grandes périodes d'inactivité, et que probablement notre cerveau était fait pour passer de longues plages de temps, pas en train toujours d'être plongé dans une activité trépidante. Et donc, quelque part, on peut imaginer qu'on est fait pour... Alors aujourd'hui, on dit s'ennuyer, mais c'est sans doute autre chose que notre cerveau a envie de faire à ce moment-là. Mais ce qui est terrible en même temps, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est par la plasticité neuronale, c'est que toute capacité peut se perdre aussi. C'est-à-dire que quand vous passez votre temps à tuer l'ennui, alors par les dogmes de la vie professionnelle et de l'efficacité et du rendement, mais aussi par le fait qu'on a tous des...
La sursollicitation des objets. Hein.
Oui, et des empêcheurs d'ennui. On a tous dans notre poche un empêcheur d'ennui. Vous prenez les transports, le métro, le RER, le bus, n'importe quand, les salles d'attente, c'est Candy Crush tout le temps, c'est de la musique tout le temps. Dès qu'il peut y avoir une minute d'ennui, il y a un appareil pour la tuer. Donc, les fonctions cérébrales d'autrefois, on va dire, qui étaient là pour affronter le temps long, perdent cette capacité à traiter le temps long. Et au point que, vous savez, il y a la célèbre expérience de 2015 dans Science qui montrait que aujourd'hui, vous prenez des individus au hasard dans la population, vous les mettez dans une pièce, vous leur dites maintenant, vous allez rester 15 minutes sans rien faire. Vous avez le choix entre ne pas bouger ou appuyer sur un bouton qui vous délivre des chocs électriques. 66% des individus de sexe masculin appuient sur le bouton pour s'occuper, même si ça leur envoie des chocs électriques.
Roger Tobout, là, on est vraiment au cœur du problème, dans cette description que vient de faire Sébastien Boller de notre société, de notre manière de fonctionner tous, quasiment, là, qui sommes à la fois autour du micro et qui écoutons l'émission, cette sursollicitation et ces objets qui viennent rompre à tout moment, ces plages qui sont pourtant très nécessaires pour notre équilibre.
Oui, et bien on s'en rend compte aujourd'hui, nous autres cliniciens aussi sur le terrain, par rapport à cette question des sursollicitations, c'est l'exposition excessive aux écrans, on est tout petit et on voit bien quels effets délétères ça peut avoir. Aussi, vous parliez des transformations cérébrales qui s'opèrent sur le cerveau des tout-petits, que d'être tout le temps sollicité et de ne pas, et surtout par des images, par des sons, et de ne pas se déconnecter à un moment ou à un autre pour s'entendre soi. C'est quand même intéressant, et puis moi je trouve que c'est pas pour rien en même temps qu'il y a un contrepoint à cette société suractive. Aujourd'hui on va chercher des monastères.
Absolument.
Pour faire des retraites. Mmh. On fait de la méditation, on fait du tai chi, et voilà, il y a quand même un moment où on se rend compte que c'est nécessaire, ces plages de vide, de rien, de... Mmh. Oui, je veux quoi, mais on s'entend plus soi. Je trouve que c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on peut dire, enfin que moi j'essaye de dire aux parents, quand effectivement on pose ces questions sur tout le temps faire quelque chose, tout le temps être occupé. Les gamins ont des agendas de ministre aujourd'hui.
Eh ben justement, on va écouter un petit garçon qui a un agenda de ministre, comme c'était le cas dans ce reportage proposé sur TF1 dans le 20h en juin 2017.
Il est 12h30 pour ce collégien. Les cours sont finis, mais sa journée, elle, est loin d'être terminée. Il entame à présent un marathon d'activités extrascolaires. Karaté, devoirs, leçons particulières d'espagnol et guitare.
Je voudrais juste que parfois, il y a des choses qui sont un peu plus courtes, comme ça j'ai le temps de reposer ou faire des devoirs que parfois j'ai pas le temps de faire.
Répéter ces morceaux à la maison, c'est quasi mission impossible. À peine rentré, il doit s'attaquer à ses devoirs scolaires.
J'ai presque jamais de temps pour... Tu vois ?
T'as toute la journée, le dimanche, le samedi...
Il faut que je travaille, hein. Études.
C'est un plus pour lui, ça peut lui apporter quelque chose plus tard, quand il sera grand, je pense.
Cet adolescent veut arrêter la guitare, un instrument imposé par son père qui voulait en faire plus jeune.
Moi, mon but, c'est qu'il soit épanoui dans ce qu'il est en train de faire. Donc si je vois qu'il a des problèmes, bah, à ce moment-là, bien entendu, on va réfléchir à la question de l'idée.
L'an prochain, l'emploi du temps de son fils sera peut-être un peu plus léger. Les spécialistes recommandent de ne pas faire plus de 2 activités extrascolaires par semaine.
Voilà, Roger Teboul, pédopsychiatre, au nom de l'épanouissement, un emploi du temps surchargé. Là, c'est une erreur fatale, finalement, pour l'enfant.
Fatale, j'en sais rien, mais ça va sûrement faire des individus particuliers. Tout le monde n'est pas pareil, et heureusement que tout le monde n'est pas pareil. Puis il y a des gens qui supportent pas, effectivement, de ne rien faire.
Il avait l'air tout faire un peu, ce petit garçon, quand même.
Oui, bah alors, je sais pas comment il va.
Très timidement,
je sais pas comment il va évoluer. Parce que après, quand on grandit, on s'émancipe. Enfin, c'est à espérer pour lui. Il va peut-être,
se révolter, c'est
être un grand glandeur devant l'éternel. Ouais. Et plutôt un contemplatif qu'un suractif, comme son père souhaite qu'il soit. Ça sera sa réponse. Mais, voilà, bon, il y a des psychologies particulières. Chacun fait comme il veut. Je ne sais pas s'il faut pathologiser quand c'est comme ça, à la frontière. Voilà, tout le monde n'est pas pareil. Mmh. Et je crois que... Non, là où je trouve que j'ai quelque chose à dire en tant que pédopsychiatre et en termes de santé publique, c'est que oui, il faut un peu décrocher. Parce qu'on voit ce que ça peut faire quand on... C'est-à-dire... Toutes les conduites addictives aujourd'hui chez les enfants et les adolescents, alors c'est pas repéré comme tel en tant que...
Oui, un emploi du temps surchargé, ça peut être une conduite addictive.
Non, mais les écrans, le sport a fait...
À haute dose.
À haute dose, toutes ces conduites excessives, je pense beaucoup aux écrans, et puis à l'adolescence, le cannabis, les drogues qu'on connaît, mais toutes ces conduites addictives, je crois qu'effectivement, c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on est je pense qu'on vit dans une société très addictive, et donc du coup c'est pas aussi, ça paraît pas aussi pathologique que ça pourrait l'être, mais voilà, il faut, après il y a des, comment on évolue.
Sébastien Boller.
Oui, le problème des enfants, là, je pense que cet enfant, il est assez caractéristique de beaucoup d'enfants, c'est que les parents veulent leur donner des armes. Voilà. Oui. Qu'ils aient des cordes à leur arc, mais parfois ils oublient un petit peu l'importance du désir. Alors, peut-être qu'on en parlera. C'est-à-dire que si vous avez des enfants qui ensuite deviennent des adolescents qui cherchent à avoir de plus en plus de cordes à leur arc, mais qui n'ont jamais réfléchi à quel était leur désir profond. Après, vous avez des gens qui sortent même de l'université, de grandes écoles, qui ont eu des notes maximales, et qui après se disent « mais je sais pas ce que je veux faire ». Et tout ça se retrouve par terre d'un seul coup. Donc, à quel moment laisser le désir éclore et comment lui donner une bulle d'air pour qu'il puisse éclore ?
Tu es un leurre, une illusion d'optique, juste l'odeur de la passion chimique. Pour une sirène, à quoi bon ? J'ai un avion à la maison, à réaction. Bats les pattes, fais demi-tour, joli tambour. Je porte un casque anti-amour sur les oreilles. Descends de ta licorne rose, tu vas te casser quelque chose sur moi. Viens me voir. À midi, on m'a dit, j'aurais changé d'avis. Pas ce soir. J'ai appris tout seul sur le tard et sur le tas à résister à la torture, à la morsure, à laisser siffler les pétards, à protéger sous une armure mon petit cœur. Bel avenir si d'aventure typique, tu enjambais ma clôture électrique. J'ai passé l'âge de faire l'andouille, de toute façon tu repartirais en citrouille et en chaussons.
On m'a dit, c'était la voix d'Albin de la Simone.
Qu'est-ce que c'est pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est pas quoi faire.
La tête au carré.
Voilà, Roger Teboulon, là, notre Pierrot le Fou, hein, pour illustrer ce dossier sur l'ennui avec Sébastien Boller et Cerveau et Psycho, qui consacre un article à ce sujet, ben justement, dans un dossier général, Sébastien, sur les nouvelles addictions, parce qu'on en parle beaucoup, hein, le sucre, les écrans, la pornographie. Mais ce qui nous intéresse ensemble cet après-midi, c'est l'ennui. Il y a beaucoup de messages et de témoignages des auditeurs. Martine nous dit, lorsqu'enfant, je me plaignais auprès de mon père, je m'ennuie. Il me répondait invariablement, cherche. Et tout devenait alors objet de curiosité et d'observation. Roger Teboul, pas mal comme formule.
Ah, il est très bien ce papa, hein, je suis d'accord avec lui à 100%. Martine a eu de la chance. Oui, cherche, parce que effectivement, on parlait de désir juste avant, et je crois qu'effectivement c'est une question centrale. Mais le désir naît du manque, donc si on n'éprouve pas le manque, on ne sait pas ce qu'on veut. Et je crois que c'est toutes ces choses-là un peu qui sont à mettre en perspective quand on réfléchit sur l'ennui. Donc ce papa était parfait, je suis pour.
Cécile nous dit, elle, de son côté, quand mes enfants me disent qu'ils s'ennuient, je leur réponds qu'ils ne s'ennuient pas encore assez parce que les idées viennent de l'ennui. En général, 10 minutes après, ils se sont inventés quelque chose à faire. Ils ont été acteurs et inventeurs de leurs occupations plutôt que simples consommateurs.
Oui.
On a des bons parents modèles, hein, dans la tête au carré.
Oui, derrière tout ça, il y a la notion essentielle d'attention. Dans l'article qu'on a choisi de publier, justement, parce que c'était, nous semblait-il, une actualité importante sur la question de l'ennui, il y a ces études qui ont un petit peu fait le point, là, depuis 3-4 ans, sur ce qui revient le plus souvent dans les travaux en psychologie sur l'ennui. Il semblerait qu'il y ait un problème d'attention, c'est-à-dire que les personnes qui s'ennuient, si on étudie expérimentalement ce qu'il y a derrière, il y a des difficultés à fixer son attention sur quelque chose. Et c'est ça qui provoque une sensation de flottement, d'incertitude sur ses buts personnels. Et le problème, c'est que l'attention, c'est une capacité cognitive que notre cerveau est capable de produire, soit de façon autonome, soit en réaction à des stimuli extérieurs. Donc, quand vous êtes en train de regarder une alerte email, quand vous regardez vos SMS, quand vous regardez une émission de télévision, quand vous êtes engagé dans une tâche au travail, là, votre attention est stimulée de l'extérieur, ou relancée de l'extérieur. En revanche, si vous êtes seul chez vous, dans un fauteuil, en train de regarder par la fenêtre, il va falloir faire fonctionner votre attention grâce à vos ressources cérébrales intrinsèques. Et ça repose sur l'activité de l'avant du cerveau, le cortex préfrontal. Le problème, c'est quand on est immergé dans un monde où l'attention est sans arrêt stimulée de l'extérieur, ces capacités préfrontales d'auto-activation de l'attention ont tendance à s'éroder. Et à ce moment-là, quand on se retrouve sans stimulation extérieure, eh ben là, il y a difficulté à fixer son attention sur des pensées propres, y compris des pensées fugaces, y compris des rêveries. Et là, elles sont vécues sur un mode passif qui est dérangeant. Donc c'est extrêmement important de toujours veiller à conserver sa faculté d'attention autonome. Et c'est intéressant ce que disait Roger Teboul tout à l'heure sur la mode de la méditation, parce qu'en fait ce sont des disciplines de l'attention. Toutes ces disciplines de travail sur le silence, sur l'intériorité, sont en fait des techniques de refocalisation de l'attention.
Mais ce qui est fou, c'est qu'on soit obligé justement de repasser par ces techniques-là plutôt que d'être capable finalement d'insérer ces moments-là dans notre vie quotidienne et à tout instant, non ?
Roger Teboul. Mais c'est aussi malheureux qu'on en arrive aussi à décrire des pathologies de l'attention. Aujourd'hui, le ADHD, Attention Deficit Disorder des Américains, avec hyperactivité, le TDAH en français, c'est précisément ça, c'est-à-dire qu'on, ce sont des enfants qui n'arrivent plus à fixer leur attention pour apprendre, mais c'est quoi ce qu'on leur dit de faire aujourd'hui ? C'est pas de la méditation, c'est pas de s'ennuyer. C'est pas de retrouver ce que vous expliquez très bien, c'est-à-dire une attention interne, un calme interne. On leur dit, vous prenez des pilules, vous prenez des amphétamines, et ça va vous rebooster, vous allez re-avoir de la stimulation externe, et tchac, là vous allez pouvoir refixer votre attention sur quelque chose. C'est quand même, voilà, il y a quelque chose de sociétal dont il faut bien se rendre compte, et je crois que l'ennui, enfin le sujet de l'ennui, vient révéler ça... aujourd'hui.
Ben c'est un problème de santé publique là, que vous décrivez
très
clairement.
Moi je trouve, on l'a assez dit. Alors il y a des vraies hyperactivités, mais il y a des tas de gamins qui aujourd'hui, et je crois qu'il y a eu un documentaire sur Netflix qui circule en ce moment, qui s'appelle American Tech Pills, sur la surconsommation de psychotropes.
Chez les enfants.
Mais pas que chez les enfants, chez les adultes
mais dès
aussi.
Le plus jeune âge, en tous les cas.
Et voilà, dans une société où effectivement, il faut penser aussi à augmenter ses capacités cérébrales tout le temps.
Alors, l'ennui, c'est aussi le cas parfois au travail chez les adultes. Extrait d'un reportage de BFM TV sur le burn-out.
Être payé à ne rien faire. À première vue, le rêve de tout employé. En réalité, ce serait plutôt un cauchemar. Et personne n'est à l'abri. Des cadres mis au placard jusqu'aux ouvriers, dont l'usine tourne au ralenti. Une souffrance aussi difficile à vivre que le surmenage, avec les mêmes conséquences, fatigue, dépression, voire tentative de suicide.
Vous arrivez le matin, vous avez moins de travail. Alors la première journée, vous êtes content, la première semaine c'est plutôt rigolo, parce que vous trouvez d'autres tâches à faire, administratives ou internet ou autres. Et puis au bout de quelques mois, c'est la destruction, les médecins du travail appellent ça la destruction de la psyché. C'est-à-dire que vous n'existez plus humainement. Je rentrais à mon domicile et puis je pensais qu'à une chose, c'est prendre un somnifère, il était 19h, prendre un somnifère, un deuxième, un troisième, m'endormir... attendre le lendemain matin, partir au travail, pleurer, enfin voilà. C'était un cycle. En fait, je n'existais plus en tant qu'être humain.
À l'inverse du burn-out, ce syndrome est pourtant peu reconnu. En France, il toucherait 10% des actifs.
Voilà, ce qui est quand même beaucoup. Le burn-out, l'ennui au travail qui peut être mortel, Sébastien Boller, au sens propre du terme, si on en juge par un petit encart justement dans le dossier sur l'ennui là, dans Cerveau et Psycho.
Oui, c'était une étude britannique, effectivement, qui a surpris quand elle est parue en 2010. puisqu'elle montrait sur 7000 fonctionnaires, effectivement, que les personnes qui s'ennuyaient le plus, hein, c'est sur des échelles d'ennui qu'on peut mesurer par des questionnaires, avaient jusqu'à 40% de risque de mortalité supérieur.
En plus,
voilà. Mmh. Alors, quelle est l'explication? L'étude ne le dit pas expressément, mais on sait que l'ennui chronique peut quand même exposer à un recours plus problématique à certaines drogues,
à
des risques d'alcool, au tabac, à diverses sortes d'addictions, et ce qui évidemment, et puis aussi le fait de l'alimentation compulsive, vous savez, tous ces gens qui vont piocher dans le sachet de chips ou qui vont aller au fast-food le plus proche simplement pour ressentir quelque chose, parce que l'ennui c'est une sorte d'érosion complète du ressenti, on ne ressent plus rien, donc on va essayer de se stimuler d'une façon ou d'une autre, y compris par la nourriture, et à la clé c'était je crois 2,5 fois plus de risque de maladie cardiovasculaire.
Ouais. Roger Teboul, un commentaire sur l'adulte aussi, pour le coup.
Mais là, je pense qu'on arrive aux confins de la pathologie, parce que là, on a parlé de l'ennui comme quelque chose d'assez normal, au fond. Là, ça touche comme le burn-out. Enfin, c'est la souffrance au travail de façon plus générale. C'est des gens à qui on impose de ne rien faire. Là. C'est autre chose. C'est un ennui forcé.
Ouais.
Mais là, on est plutôt, à mon avis, comme on peut d'ailleurs le rechercher en diagnostic différentiel, je dirais, comme en bon psychiatre. On parle de dépression. Plus de, alors chez l'enfant, ça a exactement les mêmes signes, mais c'est un ennui mortel, c'est un ennui profond, c'est un ennui qui dure et effectivement qui peut être combattu par des moyens particuliers comme l'addiction à la nourriture. Enfin, c'est vrai, tous les enfants obèses, il y en a plein qui sont déprimés. Ou effectivement aussi ces périodes de repli qui signent plutôt des dépressions et des dépressions sévères. Chez l'adulte, comme ça se racontait dans le reportage, quelqu'un qui se couche à 19h avec des somnifères, oui, il va pas bien. Donc il faut soigner ça.
Babette nous dit sur franceinter.fr, intéressant que des tas de découvertes en neurosciences confirment ce que les écoles comme Steiner, Waldorf, par exemple, mettent en pratique depuis 100 ans. S'ennuyer rend très créatif et il faut savoir laisser les enfants s'ennuyer pour qu'ils inventent. Hein, Roger Teboul?
Enfin, moi, c'est pas très scientifique, hein, ce que je dis. C'est plus de la clinique pédopsychiatrique et du développement de l'enfant. Ça, effectivement, on le sait depuis longtemps. Mais oui, il faut le rappeler.
Allez, suite et fin de notre dossier dans un instant. Et d'autres messages sur le site de La Tête au Carré.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé. Comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi
pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Cette chanson a plus de 50 ans, 1967, mais elle est toujours aussi belle, Ma liberté, Serge Reggiani.
La tête au carré.
La stupeur aux États-Unis après la folie meurtrière de trois adolescents. Ils ont abattu un jeune homme de 22 ans alors qu'il faisait un jogging. Les tireurs, dit-on, voulaient simplement tromper leur ennui.
La victime se nomme Christopher Lane, un étudiant australien de 22 ans. Effaré, le pays découvre alors les visages de trois suspects. Des adolescents âgés de 15 à 17 ans seulement. Lors de son interrogatoire, l'un d'eux stupéfait les policiers.
Quand on l'a interrogé, il a répondu on s'ennuyait, alors on a décidé de tuer quelqu'un.
Ils ont tué un homme pour passer le temps. Des adolescents désœuvrés qui s'affichent sur les réseaux sociaux avec des liasses de billets, exhibant même des armes à feu. Inculpés pour meurtre, deux des suspects risquent aujourd'hui la prison à vie, la peine maximale pour des mineurs.
Voilà, c'était en 2008, Roger Teboul, Sébastien Boller. Alors là, évidemment, on a choisi l'extrait extrême, précisément, hein, avec ces ados criminels par ennui. Un commentaire, Roger Teboul, quand même, sur ce cas qui avait beaucoup marqué à l'époque, effectivement.
Bah, la création, elle peut être terrible.
La création, c'est-à-dire ce qui sort de l'ennui.
Ce qui est sorti de l'ennui, là. Ouais. C'est, mais je pense que ça renvoie aussi... moi, ça me rappelle un film de Larry Clark qui s'appelle Kent Park. Je ne sais pas si vous connaissez ce cinéaste américain qui a beaucoup filmé l'adolescence. Et voilà, ça se passe dans l'Amérique profonde avec des jeunes ados qui s'ennuient et qui s'emmerdent et qui ne savent pas comment tromper l'ennui. Mmh. Alors effectivement, ça va, c'est Columbine, c'est tous ces trucs-là. Ouais. Les crimes de masse, c'est quoi l'imaginaire de ces adolescents à ce moment-là? Je dis que c'est une création, bien sûr, c'est une création totalement morbide, mais ça sort bien de quelque part. Et là, je trouve que effectivement, l'Amérique devrait s'interroger un peu plus sur
Sébastien
la
Boller,
société qu'elle est.
C'est difficile de savoir ce que ces adolescents avec ou non comme problème psychiatrique ou pas forcément, mais moi, ça fait écho au témoignage d'un médecin qui était interrogé dans notre article en Italie. Qui tenait une clinique psychiatrique et qui disait que chez certaines personnes de profil psychopathologique assez rude, les psychopathes, voilà, il y avait une forte réceptivité au moment d'ennui avec une capacité comme ça pendant de très longues périodes de temps à ressentir une sorte de vacuité mentale et en souffrir énormément, et que pour les psychopathes, l'ennui peut être véritablement un déclencheur de chercher une recherche de sensations. Sensation d'excitation très très forte. Il va falloir quelque chose d'extrême pour provoquer une espèce de sursaut comme ça de l'affect, et que ça peut, dans certains cas, déboucher sur un passage à l'acte. Ouais.
Allez, les témoignages des auditeurs. Camille nous dit ceci: ma fille a de grandes difficultés à l'école, mais elle est tout le temps perdue dans ses pensées et ses rêves, et sa maîtresse désespère de sa lenteur malgré son application au travail. Que faire face à cet ennui, demande sa maman Camille. Roger Teboul.
Ah, je ne pourrais pas répondre comme ça à un cas particulier. C'est compliqué. J'ai pas les gens en face de moi.
Bon, est-ce qu'il y a une pression là visiblement aussi?
Alors peut-être qu'il y a une pression de l'école, sans doute. Après, c'est assez classique d'entendre ce type de commentaires, enfin de remarques. Il y a des enfants plus lents que d'autres. C'est à l'école aussi de s'adapter. Moi, je suis un peu ahuri et effaré aujourd'hui, par la façon dont certaines écoles
stigmatisent
des enfants, effectivement, qui sont pas tout à fait dans les normes. Je trouve que c'est toujours dans le même mood, c'est le mot en anglais qui me vient, de cette société qui cherche la performance. Comment on évalue aujourd'hui en maternelle des gamins, ça me semble ahurissant. Il y a un temps pour apprendre, et voilà, on est aujourd'hui, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il faudrait déjà presque savoir lire et écrire en grande section de maternelle, pour passer au CP. On a l'impression que ça tout avance d'un an. Alors il faut aller plus vite, il faut être plus performant. Ces choses-là, ça va avec, effectivement. Mmh. Peut-être que l'école devrait reconnaître un peu plus ces enfants nonchalants. Moi, je trouve que c'est bien un peu de nonchalance dans les apprentissages aussi. On n'est pas tout le temps obligé d'être sur la brèche. On peut se laisser aller. Et c'est compliqué de faire entendre ça aujourd'hui dans la société de compétition qui est la nôtre.
Soyons nonchalants, Sébastien Boller. Hein.
Oui, savoir rêver. En fait, ce qui se passe dans la tête de cet enfant, c'est un trésor. Hein. Alors, ça ne se voit pas. Pour l'enseignant, évidemment, l'enseignant, il veut voir des choses sur le papier au moment où il ramasse les copies, mais ce qui se passe dans la tête de l'enfant qui est en train de rêver comme ça, ça lui servira énormément. Il faut pas le détruire, ça.
Alors justement, puisque vous parlez de ce qui se passe dans la tête, il y a une question de Laurent qui demande si les parties du cerveau activées lors de l'ennui sont les mêmes que celles activées lors de la méditation.
Ah oui, c'est en partie les mêmes, mais alors faut pas prendre le problème par le mauvais bout. C'est-à-dire que ce qui s'active dans notre cerveau quand on s'ennuie, c'est donc on a un petit peu parlé tout à l'heure, ça s'appelle le réseau par défaut, c'est un ensemble d'aires cérébrales qui s'active quand on fait rien. Bon. Et c'est tout à fait naturel, il y a toujours un moment où la pensée se met à vagabonder, ça s'appelle le vagabondage de l'esprit, et c'est ce qui se passe aussi dans la tête de cet enfant dont on parlait, qui part comme ça dans ses pensées. Alors quand on fait de la méditation, le principe de la méditation, c'est de focaliser son attention au départ sur un objet mental ou une sensation, ça peut être la respiration, ça peut être la lumière d'une bougie. Et donc cette fois-ci, il est hors de question de vagabonder, l'attention de te focaliser sur quelque chose de précis. Mais irrémédiablement, et ça tous les experts en méditation vous le diront, c'est une loi fondamentale de la psyché, c'est qu'au bout d'un moment, on reste plus focalisé, on dérive. Et on ne se rend pas tout de suite compte qu'on dérive, et donc là, on voit apparaître l'activité de ce réseau par défaut. Et justement, la pratique de la méditation consiste à repérer le moment où l'attention dérive, où on bascule dans le mode ennui, le mode vagabondage, le réseau par défaut, pour ensuite ramener l'attention sur l'objet. Et au bout d'un moment, ça redérive et on ramène. Donc en fait, la méditation, il y a des cycles d'activité. Entre une activité par défaut qu'on pourrait qualifier proche de l'ennui, c'est même tout à fait ça, et une activité d'attention focalisée. Et ce qui est très important, c'est de savoir osciller entre les deux. C'est impossible d'imaginer un esprit totalement focalisé en permanence, et c'est complètement impossible et contre-productif d'imaginer un esprit qui ne ferait que vagabonder. Mmh. Et c'est très important parce qu'on se rend compte aujourd'hui que des gens qui ne savent plus s'ennuyer ont toute une série de pathologies liées à la performance, et celles qui s'ennuient trop. On voit par exemple dans les maladies neurodégénératives, il semblerait par exemple dans les maladies d'Alzheimer, qu'on ait un fonctionnement excessif du réseau par défaut, qui n'est plus régulé. Donc la méditation, c'est ce qu'on devrait tous faire un petit peu naturellement, des moments de concentration intense suivis de moments de relâchement.
Et alors vous nous l'avez souvent expliqué ici, mais les neuroscientifiques justement autour de ce réseau par défaut ont découvert d'abord que ce réseau c'était le siège de fonctions cognitives très très importantes, précisément sur le sentiment de soi, la projection du futur, l'activation des souvenirs, tout ça c'est essentiel dans la vie d'un individu.
C'est un peu le noyau de ce qu'on est en absence de tout ce qui peut nous solliciter. Ça sert effectivement à se sentir exister, à projeter, parce que la pépinière à idées, à images mentales, et c'est très important, parce que les images mentales qu'on produit par le réseau par défaut, c'est des images intérieures, et quand on vit dans un monde où les images sont partout présentées sous forme d'écran, les images mentales disparaissent. On se rend pas compte, nos images mentales s'appauvrissent.
Roger Toboul, dernier message, Nadine qui nous dit « Enfant, je me suis beaucoup ennuyée, aujourd'hui je suis devenue une adulte hyperactive et j'ai l'impression que mes trois enfants ne savent pas du tout s'ennuyer et qu'au fond, ils n'en auront pas l'occasion, mais est-ce bien grave pour autant ?» Allez, le mot de la fin pour répondre à cette
grave, chacun fait comme il peut, comme il veut. Mais je voulais juste revenir sur ce qui était dit, effectivement aujourd'hui, les écrans, on a tendance à voir... une représentation du monde interne comme ceux des ordinateurs. Mais quand on fait pause sur un ordinateur, il se passe plus rien. Quand on fait pause dans notre esprit, il continue à se passer des choses.
C'est ce qu'on a vu.
Et je crois que c'est ça qu'il faudrait pouvoir faire entendre aujourd'hui. On peut faire des pauses.
Merci beaucoup à tous les deux. On terminera sur ce mot avec également ce dossier pour prolonger la réflexion. Cerveau psycho, c'est dans les kiosques en ce moment avec un grand dossier sur les nouvelles addictions et un article justement consacré à l'ennui. Merci beaucoup à tous les deux.